Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Les GG ce week-end, et c'est rare pour le signaler, nos deux équipes de France premium, comme on dit, jouent en même temps, les Bleus du foot et le 15 de France, alors que les clubs semblent prendre de plus en plus de poids par rapport aux sélections, surtout dans le foot, hein, on va en parler tout à l'heure. C'est l'occasion pour nous d'évoquer avec vous, de comprendre en fait l'importance vraiment de porter le coq sur la poitrine. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Ça fait quoi de jouer, de représenter son pays? Pourquoi c'est pour vous au-dessus de tout? Fred, porter le maillot de l'équipe de France. Alors, déjà, tu as été vice-champion olympique, notamment, on rappelle, à Sydney.
Oui. Je ne sais pas si c'est plus important du monde, mais après, c'est vrai que moi, j'ai des origines italiennes, donc je suis fils d'immigrés. Donc, effectivement, quand mes parents m'ont vu la première fois porter le maillot de l'équipe de France, pour eux, c'était incroyable. On a réussi, on s'est adapté au pays et chanter la Marseillaise. C'était une folie. Et puis, putain, l'impression de représenter la crème de la crème de ton pays dans ton sport. Donc forcément, c'est ultra valorisant, t'as envie de faire plus d'efforts et tu en fais parce que de fait, tu joues un peu moins que dans ton club, t'es un peu moins utilisé, les stats ont beaucoup moins d'importance parce que encore une fois, tu joues pour ton pays et donc t'as moins d'intérêt à avoir des stats. Oui,
t'avais moins d'ego en équipe de France.
Oui, clairement, mais parce qu'on a un but commun, ramener une médaille, ramener un bon résultat pour la France, pour notre pays, ça va bien au-dessus du business. Mais après, moi, j'ai eu des relations conflictuelles sur certains moments de ma carrière avec l'équipe de France. Et ça a été plus compliqué parce qu'à un moment, effectivement, je comprends Aldrit, quand t'es aimé dans ton club, quand t'es supporté, quand t'as même un club de supporters. Moi, j'avais 30 personnes à Malaga qui avaient un t-shirt avec mon effigie et que t'arrives en équipe de France et quoi que tu fasses, ça va pas, c'est ta faute et il y a un problème. Forcément,
c'était ton sélectionneur qui te le faisait ressentir.
Non, alors mon sélectionneur m'utilisait pas suffisamment à mon goût, et bon, ça c'est subjectif parce que évidemment on a toujours envie de plus jouer, mais c'est surtout la presse qui était extrêmement dure parce que comme
t'es plus exposé en équipe de France.
T'es plus exposé.
Il faut en être conscient.
Évidemment, mais dans un bon sens comme dans un mauvais, parce que t'es plus exposé parce que effectivement en France on te reconnaît plus. Moi, la plupart des gens me connaissent parce que j'ai fait Sydney, aussi parce qu'on a sauté au-dessus de moi, mais aussi parce que j'ai fait Sydney. Donc effectivement, tu peux pas avoir les deux sans payer un petit peu ce prix. Tu es plus connu, tu es plus reconnu, tu gagnes des médailles, tu représentes ton pays, on te voit plus, mais de l'autre côté, effectivement, tu es plus exposé. Mais c'est vrai que à un moment, ça devient lassant, et moi j'ai pris ma retraite une première fois, on m'a rappelé quelques années après pour revenir, parce qu'à un moment, ça suffit. À un moment, tu peux faire des efforts pour ton pays, tu peux faire plein de choses, mais être le bouc émissaire absolu à chaque fois...
On est plus à fleur de peau parce qu'il y a un poids derrière tout ça, il y a une symbolique, tu en as parlé, fils d'immigré et tout ça. Pour toi, c'était fort, donc quand ça marche pas bien,
c'est très
ça
fort.
Te touche plus.
Alors c'est fort aussi parce que t'es pas payé. Enfin, en basket, on n'est pas payé. Et donc quand tu viens, c'est juste pour l'amour du maillot, c'est pour l'amour de ton pays. Moi, dans mon club, je suis payé, et donc que j'aime ou pas le club, j'ai donné 200%. Sauf que là, c'est vraiment une décision personnelle de se dire, je n'ai pas de vacances, ce que je n'ai pas eu pendant plus de 10 ans, parce que j'ai fait les équipes jeunes aussi, mais j'y vais pour une raison, j'y vais pour la fierté de porter ce maillot.
C'est bizarre ce que tu dis, en fait, Fred. Bon, moi, j'ai pas connu vos sélections A, j'ai connu très peu de sélections, mais chez les jeunes. Donc l'aspect hyper médiatisé n'était pas très sensible, mais malgré tout, pour moi, le simple fait de se voir remettre le pactage avec le coq de l'équipe de France, ça représentait quelque chose. Le simple fait, comme tu le dis, que tes parents soient fiers de toi, ça représente quelque chose. Et j'essaye de me projeter. C'est pas un regret. Si j'avais été international chez les A, la notion de finance, franchement, elle aurait été tellement futile, ce qui m'aurait
importé. Mais c'est ce que je dis, Pascal. C'est justement, tu y vas en connaissance de cause. Tu décides d'y aller, tu n'es pas payé, donc c'est un vrai choix fort d'y aller.
J'avais pas compris.
On y allait sans être payé et ça nous posait pas de problème parce que le maillot de l'équipe de France avait beaucoup plus de valeur à nos yeux que l'argent qu'on aurait pu gagner avec.
Tu vois, par exemple, je crois que c'était donc jeudi, le match de l'équipe de France, l'hymne a cappella, mais je me suis identifié au joueur. Ça doit être quelque chose de formidable à vivre.
Tu ne t'en lasses jamais,
stade
ça, Pascal.
Entier.
Ouais.
Comment?
Ouais,
c'est un truc incroyable, franchement. Ouais, incroyable.
Mais comment ça s'est passé pour toi chez les jeunes, Pascal? Raconte-nous. Comment l'équipe de France arrive dans ta vie?
La première fois, je dois avoir 16 ans, c'est un tournoi avec la catégorie, c'était les cadets. en Algarve, au Portugal, avec des joueurs donc de mon âge, mais il y a peu de monde dans les tribunes, mais malgré tout, l'hymne, putain, ça m'a pris, ça m'a mis les larmes, quoi. Donc, et puis le coq sur la poitrine, c'est, je sais pas, c'est un sentiment de fierté, en fait. Et ça, c'est pour ça que votre question, en fait, elle me semble tellement, attention, hein, vous êtes des experts, hein, vous voulez nous faire parler, mais je crois pas à la banalisation quelques sportifs.
Et si, malheureusement, Pascal. Oui.
Mais je voudrais laisse-moi finir, Benet, parce que je sais là où vous voulez en venir. Il y a pas un joueur de cette planète qui n'espère pas être sélectionné pour jouer la Coupe du Monde au States.
Ah oui.
Il y en a pas dans mon sport. Il y en a pas. C'est pas vrai. Qu'il ait des priorités tout au long de la saison, je veux bien le concéder, mais chacun d'entre eux a qu'une envie, c'est de ne pas se blesser pour aller à la Coupe du Monde. Et nous sommes au 21e siècle, et c'est la Coupe du Monde 2026. Arrêtons de nous faire avaler n'importe quoi.
Non, mais
n'importe quel sportif.
Complètement d'accord avec Pascal là-dessus.
Besoin de ça.
Complètement d'accord avec Pascal.
Sur n'importe quel
footballeur qui rêve d'aller à la Coupe du Monde, complètement d'accord. Sur une fois que t'as goûté, quelle que soit la sélection jeune, professionnelle à cette Marseillaise, c'est effectivement une fois que t'as réussi, une fois que tu l'as vécu pour toi.
Mais c'est un accomplissement pour vous tous, je pense. Bien sûr. Depuis gamin,
quand tu l'as arrivé à
l'élite. C'est ça. Quand tu la revis de manière, moi aujourd'hui, c'est quand je vais voir un match de l'équipe de France, par exemple de rugby, et qu'il y a la Marseillaise, ça me fait quelque chose que je peux pas décrire beaucoup, parce que je l'ai vécu en tant qu'athlète.
Tu l'as vécu avec l'équipe de France de Coupe Davis. Voilà.
Tu l'as vécu en plein, toi. Exactement. T'as donné le point.
Et t'as été champion olympique, médaille olympique aussi.
Et donc ça, voilà, nous, enfin, à l'époque où on jouait à la vraie Coupe Davis, c'était des moments qui étaient gravés dans le marbre. Des moments de forte pression, des moments de fierté incroyable, des moments de forte déception. En fonction de comment, quand il y a des sélections qui sont dures à accepter. Tout est décuplé. Les émotions sont décuplées, les responsabilités sont décuplées. Et en tout cas, moi, dans mon sport, ça se perd. Ça se perd. C'est terrible.
Pour toi, avoir le survêtement de la Coupe Davis, on rappelle, hein, comment c'est en tennis avec vos noms.
Mais même quand j'étais capitaine.
Mais quand tu le reçois la première fois.
Ah mais c'est quand tu mets la c'est tu comment je sais pas tu te dis tiens j'ai vu les autres à la télé
c'est moi maintenant
exactement et maintenant c'est moi.
Oui, mais ça c'est la première fois, moi la question que je me pose c'est est-ce que à chaque fois qu'on te remettait ça te faisait la même chose, on banalise un petit peu malheureusement.
On banalise en fonction de mais je trouve que c'est le rôle justement des sélectionneurs, des capitaines, des managers en fonction du sport, on l'appelle comme on veut, de pas banaliser,
de sacraliser,
exactement, de pas banaliser, de dire ok, vous êtes sélectionné de nouveau, c'est pas rien, ça veut dire que vous êtes les meilleurs de votre pays, que à ce moment-là, et effectivement, mais avec la professionnalisation du sport et de beaucoup de tous les sports, ça se banalise, ça se perd, et c'est là où je pense que, en tout cas dans certains sports, les institutions doivent remettre de manière très ferme l'importance de l'équipe de France dans le chemin d'un joueur ou d'une joueuse dans une carrière, quel poids ça va avoir et d'être
tu sais comment on fait nous au basket, on a fait une cérémonie des remises des maillots et c'est des légendes du basket en général à qui on demande de venir te le remettre et ben d'un seul coup tu vois une légende, quelqu'un que tu as vu jouer, que tu as vu évoluer, et ben ça te remet dans le contexte et je trouve que
tu te souviens de ça.
C'est hyper important, bien sûr.
C'était quoi?
J'ai eu plein de légendes, en fait. La plupart des
gens du basket français.
Alors, bien sûr, Richard Dacoury est passé, mais
donc, Richard Dacoury t'a donné ton maillot de l'équipe de France?
Oui, c'est arrivé, bien sûr. Et des légendes du sport français.
Et toi, tu réagis comment, toi?
En fait, au départ, tu te dis, waouh, c'est génial, je veux faire comme lui, etc. Donc, forcément, ça te remémore ça et ça te remet dans le contexte de, c'est une fierté de porter le maillot de l'équipe de France.
Vas-y, Simon.
Moi, je vais, je vais vous épargner mes souvenirs de championnat du monde de belote coinchée avec, sous le,
avec le maillot bleu.
Le maillot de l'équipe de France, parce que, évidemment, on dominait.
Indescriptible.
Outrageusement. Non, moi, j'ai forcément mon regard à la fois de, d'observateur, de journaliste, et je me mets à la place, vous, des copains, des anciens sportifs. En effet, il doit y avoir cette fierté de représenter son pays, mais je pense que c'est... Est-ce que les gens qui aiment le basket, ils se souviendront de Tony Parker sous le maillot de l'équipe de France ou sous le maillot des San Antonio Spurs?
Ouais, bien sûr, t'as raison.
Est-ce que un cycliste qui dispute les championnats du monde sous le maillot de l'équipe de France,
ça dépend,
il est plus excité au départ de la course que au départ d'une grande étape du Tour de France quand il a encore ses chances de général?
Pour est-ce Tony que, Parker, j'ai la réponse.
Est-ce que Bennett le rappelait, les Humbert, les Moutet, ils sont aussi transcendés par la Coupe Davis que ne l'étaient les Lecomte, les Forger, les Butch en leur temps?
Ouais, mais je pense que c'est
juste en fait Bennett l'a sous-entendu.
Ça dépend des sports.
Tout est lié en fait à
une époque.
Et surtout, voilà, aux trajectoires que prennent les différentes disciplines, les différentes fédérations et les différentes compétitions internationales. Pour moi, Léo Messi, on en parlait tout à l'heure, ce sera un grand joueur du FC Barcelone. Ok, il a réussi à gagner la Copa América, la Coupe du Monde, mais c'est sous le maillot du FC Barcelone que je me souviendrai de lui. Il y a donc.
Oui, mais c'est.
Maintenant, il a fait quand même 2-3 trucs à Garçon.
Mais oui, mais ça, j'ai aucune idée. Je
Messi, c'est pas.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'au sens des compétiteurs, des compétitrices, ça ne fait aucun doute. Et évidemment, je pense que il y a une fierté qui domine tout le reste de représenter son pays. Au sens des observateurs, des amateurs de sport, des gens qui le consomment, je suis pas sûr que sous le maillot du pays, tu sois encore plus excité ou encore plus transcendé par les performances des champions.
Mais je pense que ça dépend vraiment des sports. Par exemple, au basket, nous, comme on est en décalé avec
ça dépend des époques.
On te voit moins et on te voit beaucoup plus quand t'es avec l'équipe de France. Mmh. Donc c'est pour ça que des Tony Parker, finalement, moi, je pense qu'ils font leur légende en France. Je parle pas dans le monde, hein. Je parle de leur légende en France. Elle est sous le maillot de l'équipe de France, en fait. Parce que les matchs sont loin, on le voit moins, c'est en décalage. Mais même lui me le disait. En fait, l'équipe de France, pour lui, c'est aussi cette capacité à reconnecter avec les fans. C'est hyper important pour les basketteurs américains de revenir et reconnecter avec les fans aussi.
Mais ça dépend de plein de choses. Simon prend l'exemple de Messi, Maradona, on va se souvenir de lui. Si tu prends Maradona, les Napolitains vont le voir avec le maillot bleu avec marqué Mars dessus.
Chacun se l'approprie comme il veut, en fait.
Les Argentins,
c'est normal.
Nous, moi, l'image de Maradona, c'est la Coupe du Monde 86, pour moi. Maradona, c'est ça. Exactement.
La main de Dieu.
Exactement. Messi, effectivement, dans mon imaginaire, c'est le maillot blaugrana. Parce que plus beaux buts qu'il a marqués, sa légende, il se l'est forgé. Il l'a magnifié. Pas avec Guy. Il n'était pas à côté de Guy à ce moment-là pour la forger, sa légende, mais il l'a magnifié avec ce qu'il a fait en Coupe du Monde en la gagnant.
C'est la cerise sur le gâteau.
Exactement.
Messi lui-même a dit que sa plus grande victoire.
Le truc important de ce que tu viens de dire, c'est que justement, chacun a le prix.
Exactement.
Sauf que l'équipe de France, ça réunit tout le monde, justement.
Normalement, normalement, oui.
C'est pas ce vecteur qui te permet de dire il a joué là, il a joué là, il a joué là, mais il a joué pour l'équipe de France.
Je vais te prendre un exemple. Alors, on est concret dans mon sport pour l'instant. Imaginons que l'année prochaine ou dans deux ans, Louise Boisson fasse de gros matchs et de grosses performances avec l'équipe de France de Billie Jean King Cup.
On le souhaite à Élisée Cornet.
Exactement. Dans le grand imaginaire, on va la retenir sur quoi? Sur son parcours de Roland-Garros cette année, demi-finale. Et voilà, tu vois.
Tout à fait.
Et parce que la valeur est plus la même, peut-être aussi aujourd'hui.
Ça dépend du sport.
Moi, j'ai juste un contre-exemple. Je sais pas si vous avez entendu cet été, on a eu championnat d'Europe qui s'est moyennement passé pour l'équipe de France, et on a un joueur qui s'appelle Moussa Diabaté. Moussa Diabaté a été sélectionné, coupé très tôt, et en fait, il vient de faire une interview là.
Il joue et à la franchise à Charlotte.
Il fait une très bonne saison. Il est à 11,7 rebonds, donc c'est quand même quelqu'un qui est très performant avec son club. Et en fait, il explique que quand il est parti d'équipe de France, il était un peu triste de partir, mais quand on l'a rappelé, il n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il voulait préparer sa saison. Parce qu'à un moment, il explique que sa franchise le paye, l'équipe de France ne le paye pas, et que c'était juste une question business. Et ça, c'est le risque. C'est que à un moment, les gens choisissent le business avant l'équipe de France. Et c'est pour ça que, pour moi, ça peut être un vrai problème. On avait moins ça à l'époque, avec des Tony Parker qui faisaient des efforts de venir tous les étés, etc. Et Boris Diaw, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais c'est vrai que maintenant, la NBA, c'est moins dépendant de l'équipe de France.
Mais pour le coup, on en parle, on met ce dossier sur la table. Alors, Pascal, tu en parlais tout à l'heure, tu disais qu'on cherchait le débat, mais parce que c'est peut-être une petite musique qui commence à prendre de l'importance dans le foot, ouais, notamment, parce que les clubs prennent de plus en plus de pouvoir. Même si tu as raison de rappeler, la Coupe du Monde restera au-dessus de tout.
L'Euro toujours aussi. Qu'est-ce qui sublime la valeur marchande des joueurs de football? C'est le fait d'être internationaux. Donc ils ont. Ah,
il a raison. Cette semaine, je lisais un truc. C'était un agent, de plusieurs agents, qui disaient aujourd'hui, c'est dans le foot. Si tu n'es pas international, ta valeur marchande, elle dégringole énormément.
Et là aussi, ça dépend du sport. Ça dépend du sport. Parce qu'au basket, c'est plus le cas en fait. Au basket, c'est plus le cas. Ça dépend vraiment des sports.
Exactement. Par rapport à ce que disait Bennett tout à l'heure, c'est pour ça que je voudrais qu'il me confirme si j'ai bien compris. Tu penses que c'est, alors tu me dis ils ont pas les mêmes émotions que nous avions, mais c'est parce que le format de la compétition est pas bon, c'est pour
bien
ça.
Bien sûr, ben oui, parce
ça
que je pense
pas vibrer
que
la Coupe Davis telle qu'elle est aujourd'hui organisée.
Tu as raison, parce que je pense, par exemple, concrètement, Sinner, si la semaine prochaine la finale de la Coupe Davis, c'est Italie-Espagne qui joue contre Alcaraz et compagnie sur 3 jours dans une salle surchauffée à Milan ou à Rome, je pense qu'il l'aurait joué.
Tiens, juste un dernier tour de table, les amis, parce que je pense que ça montre aussi l'importance plus que symbolique que ça peut avoir pour vous, les équipements de l'équipe de France. Vous en avez encore aujourd'hui?
Ouais.
Bennett.
Moi, j'ai encore un survêt et j'ai pratiquement rien gardé de ma carrière, et avant de l'avoir donné l'année dernière pour une œuvre caritative, j'avais gardé le premier polo qui avait été signé par tous mes coéquipiers, avec lequel j'avais joué contre l'Allemagne à Toulon en 2010. Oui, c'est quelque chose qui... Des équipements marqués France dans le dos, que ce soit la Coupe Davis ou un ou deux trucs des Jeux Olympiques, oui.
Sont les trésors, Pascal?
Comme je n'en ai pas beaucoup, tu m'étonnes.
Ouais.
Et oui, j'ai gardé.
C'est vrai?
Mais moi, c'est le coq brodé. C'était
magnifique.
Oui, je comprends ce qu'il veut dire.
Waouh, c'était un truc de fou pour moi.
C'est un trésor, mais ça t'arrive de le revoir encore de temps en temps?
Non, c'est bien, ouais. C'est bien réduit, si t'es mieux, c'est bien rangé, de manière à ce que ça ne prenne pas les mythes.
Mais c'est présent quand même, en tout cas. C'est là et c'est conservé avec soin.
Une espèce de symbole, si t'es mieux. Ouais. Moi, j'ai pas de regrets sur toute cette carrière, mais je dois reconnaître que c'est quelque chose qui m'a... Bon, je m'en souviens comme c'était hier, j'avais 15-16 ans, tu t'imagines, c'est hier.
Ah bah, c'était presque hier.
Et toi, Fred? Toi, tu sais même pas où est ta médaille olympique.
Moi, je sais même pas où est ma médaille olympique, tu peux te poser la question.
Moi, j'étais sûr de ta réponse.
Alors, réellement, j'ai trouvé dans mes affaires un vieux bas de survêt dont je me sers quand je décolle, c'est-à-dire absolument jamais, mais c'est tout. Le reste, j'ai soit donné, soit perdu, soit...
Tu me le fileras, j'ai besoin d'une combinaison.
Mais je pense que c'est trop grand pour une combinaison pour toi.
Vous retrouvez le vestiaire des grands gueules du sport en podcast, évidemment, sur toutes les plateformes.